Nous remercions le Seigneur pour ce temps de repos, de partage et d'écoute. Rappelons encore et toujours que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Sauveur, je suis au milieu d'eux. Levons-nous pour invoquer le Seigneur avec le premier spontané, donc de la page 20. Et je vous invite à poursuivre notre louange avec le chant du psaume 32. Comme je crois qu'il n'est pas tellement l'habitude de le chanter, est-ce que Fred, tu peux jouer toute la première strophe ? vous invite à vous asseoir. Écoutons comment le Seigneur veut être aimé. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car la loi se résume dans ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici, a ajouté Jésus, un nouveau commandement, mais qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Reconnaissons notre péché. C'est bon là ? C'est mieux ? Bon. Seigneur, nous reconnaissons notre péché, Seigneur, car nous faisons si souvent le mal que nous ne voulons pas faire, et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos pseudo-sagesses. Pardonne-nous d'avoir limité notre service à ceux qui nous plaisent et négligé ceux qui nous sont indifférents ou hostiles. Pardonne-nous et aide-nous afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et mieux aimer notre prochain. S'effondrerait, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Je vous invite à écouter la confession de foi de notre paroisse. Je crois en Dieu notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ notre Seigneur, il a souffert, il est mort. Présent dans nos vies, il nous pardonne. Il nous montre le chemin, il est la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois que Dieu place sa confiance en nous. Je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix à tous les hommes et toutes les femmes. L'Esprit de Dieu crée et recrée la vie et le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous te prions. Nous te prions de nous donner la foi et l'intelligence de ces textes que des hommes, entre le 10e siècle avant notre ère et le 1er siècle après la naissance de ton Fils, ont rédigés. Ils étaient inspirés par toi, mais ils ont pu comprendre et percevoir à travers le prisme des époques où ils vivaient. Permets-nous de percer le brouillard du temps. Je vous invite à écouter trois textes. Donc, le premier est dans la Genèse, chapitre 32, 23 à 33. C'est le texte que je vais commenter dans la prédication tout à l'heure. Je vous donne un peu le contexte. J'y reviendrai plus tard, plus en détail dans la prédication, parce que si je vous le lis là comme ça, vous n'allez pas savoir de quoi il s'agit. Donc il s'agit de Jacob. Jacob qui a des grands torts envers son frère Ésaü. Et donc il s'est enfui pour échapper à la vengeance de son frère, et il a vécu 20 ans à l'étranger, chez son oncle Laban. Il a fait fortune, etc. Et pendant un rêve, Dieu lui a intimé l'ordre de revenir dans son pays et de se réconcilier avec son frère Ésaü. Donc Jacob a organisé la caravane, il s'est mis en route, et il approche du fleuve Yabok, qui est la frontière. Le Yabok, c'est un affluent du Jourdain. Et comme il a un peu peur, Jacob, de la réaction d'Ésaü, même 20 ans après, il fait passer sa caravane sur le gué du fleuve, Yabok, avec femmes, enfants, troupeaux, et des messagers qui apportent des cadeaux pour calmer son frère Ésaü. Lui-même reste en arrière en attendant de voir ce qui va se passer. Et il se passe quelque chose qu'il n'attendait pas. Cette même nuit, il se leva, c'est Jacob, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, puis il fit passer ce qui lui appartenait. Et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il heurta Jacob à la courbe du fémur, qui se déboîta, alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit, « Laisse-moi, car l'aurore est levée. » « Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « De grâce, indique-moi ton nom. » « Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ?» Là même, il le bénit. Jacob appela ce lieu Peniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Le soleil se levait quand il passa Penuel. Il boitait de la hanche. C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à la courbe du fémur aujourd'hui encore. Il avait en effet heurté Jacob à la courbe du fémur, au muscle de la cuisse. Puis, dans la Nouvelle Alliance, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 8. Les versets suivants sont bien plus connus, puisque ça, c'est le prologue au Notre Père. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Troisième lecture, qui est une des lectures de ce jour. Vous savez qu'il y a des lectures recommandées ce jour. Quand je préside un culte, j'essaye toujours d'en trouver une qui corresponde au thème de la prédication. Et vous allez voir. Alors, cette lecture recommandée ce jour m'est très chère pour des raisons professionnelles qui vont vous apparaître tout de suite. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre mon adversaire. Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu ni ne respecte les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, et il les fait attendre? Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, guide-nous par ta parole, aide-nous à la comprendre tant de siècles après, et qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 272, « Ô mon Père, ma prière ». Oui, Seigneur, c'est ta présence, chaque jour, chaque nuit, qui nous assure de ta grâce et de la vie. Amen. Le texte du combat de Jacob au gué du Yabok, affluent du Jourdain, comme je vous l'ai dit, est assez connu. Enfin, il est connu surtout dans la peinture, parce qu'il faut dire que c'est assez spectaculaire, ce combat d'un homme contre une silhouette humaine à qui on a mis des ailes. Enfin bon, je vais y revenir. Nombreux peintres anonymes ont décoré les églises, catholiques surtout, évidemment, avec ce sujet. Mais des maîtres, des grands maîtres l'ont traité, Rembrandt, Delacroix, Gauguin, et d'autres, qui ont traité quand même. Alors j'ai choisi ce texte, ce passage, quand il a été convenu que je présiderais ce culte, pour une raison précise, c'est que je l'avais jamais bien compris. Alors je me suis dit, je vais prêcher dessus, ça va me forcer à réfléchir et à faire des recherches. Ces recherches, en effet, m'ont confirmé cette évaluation, c'est pas simple. Les théologiens en ont proposé plusieurs explications divergentes, contradictoires, et la plupart, dans leurs explications, ont souligné la difficulté. J'ai une citation là. « Ce passage n'est pas facile à interpréter. » C'est Benoît XVI qui a dit ça. Il s'y connaît. Alors, les difficultés débutent avec le titre. Vous savez que dans les Bibles, les chapitres n'ont pas de titre d'origine. Là, je crois, c'est le combat de Jacob au Yabok. Enfin bon, mais on dit souvent le combat de Jacob avec l'ange. Il n'y a pas d'ange dans le texte que j'ai lu. D'après le texte, c'est à peu près explicitement Dieu qui se nomme à la fin. Alors les peintres ont évidemment hésité à représenter Dieu se battre avec un homme. C'est quand même très difficile. Pour présenter Dieu créant le monde, alors faire du catch avec Jacob, c'est difficile. Mais le prophète Osée, bien plus tard, quand il a résumé la vie de Jacob, a écrit « Jacob a lutté contre Dieu et contre un ange ». Et la solution, on a gardé l'ange. Une autre difficulté dans ce texte, si vous avez écouté, les phrases, les propositions commencent par « il » et on ne sait pas trop de qui il s'agit. On pourrait penser, d'après la phrase précédente, que c'est Jacob. Et en réalité, à chaque fois, c'est Dieu. Dieu, parce qu'on ne peut pas nommer Dieu, donc l'auteur commence par « il ». On peut dire Jéhovah, Adonai, mais commence par « il », c'est-à-dire « il », c'est le mystérieux agresseur qui se révèle être Dieu à la fin. Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire quand même? Dieu prend une forme humaine et va attaquer Jacob nuitamment. Le combat dure toute la nuit. Vers la fin, Dieu comprend qu'il ne va pas avoir le dessus, ce qui est quand même difficile à concevoir. Et alors il blesse Jacob par un coup bas, un coup en haut de la cuisse qui déboîte le fémur. Jacob est ainsi réduit à l'impuissance, vous imaginez, si son fémur est déboîté, et malgré tout, il maintient son agresseur au sol et ne le lâche pas. Et l'agresseur lui demande de le lâcher parce qu'il a fait un jour. Et Jacob demande en échange de le lâcher, alors qu'il ne sait pas encore à qui il a affaire, l'autre ne s'est pas identifié, lui demande de le bénir. Et Dieu le bénit en lui disant que désormais il s'appellera Israël. Que Jacob s'appellera Israël. Alors, bon, le dernier point, c'est presque clair. Jacob devient Israël. Israël, c'est la première fois que le mot apparaît dans la Bible. Et alors, dans les racines hébraïques, Israël, ça voudrait dire Dieu est fort ou Dieu est le plus fort. Alors qu'il vient d'être battu. Enfin, bon. Et Jacob, en effet, à travers ses 12 fils, va devenir l'ancêtre des 12 tribus d'Israël et de tout le peuple juif. Bon, ça va, mais tout le reste, c'est très compliqué. Alors, pour y voir un peu plus clair, je vous propose de nous pencher quelques instants sur la destinée de Jacob, puis sur le combat lui-même, et enfin sur cette mystérieuse blessure en haut de la cuisse. Alors, Jacob, donc, c'est le fils d'Isaac, et donc le petit-fils d'Abraham. Il a un frère jumeau, Ésaü. Ce frère jumeau, Ésaü, est considéré comme l'aîné, c'est comme ça qu'on voyait les choses à l'époque, parce qu'Ésaü est sorti le premier du sein maternel. Le nom de Jacob, ça vient de racines hébraïques qui signifient le talon. Et en effet, Jacob, dans le ventre de sa mère, de leur mère Rebecca, au moment de la naissance, s'est agrippé au talon de son frère Ésaü pour le suivre. Il était peut-être déjà par jalousie, il aurait voulu passer devant. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit. Le nom Jacob a d'autres racines hébraïques qui signifient frauder ou tromper. Et Jacob ne va pas être d'une honnêteté extraordinaire dans toute sa vie. Dans un premier temps, il va, puisqu'il est toujours jaloux, il est jaloux de son frère, il va abuser de la faiblesse et de l'appétit de son frère Ésaü, en lui rachetant son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Bon, vous connaissez l'expression, elle est passée dans le langage courant. Plus tard, à l'instigation de leur mère Rebecca, qui le préfère, oui, Rebecca préfère Jacob, parce qu'elle elle n'aime pas les épouses d'Ésaü. C'est une affaire de famille. Puis c'est une mère juive. Et Jacob va se faire passer pour son frère aîné auprès de leur père Isaac, parce que Isaac est aveugle. Et donc Jacob va se faire passer pour Ésaü. C'est assez pittoresque, il prend même une peau de chevreau, parce qu'Ésaü est extrêmement velu et pas lui. Donc Isaac au toucher croit avoir affaire à Ésaü. Et donc il donne sa bénédiction à Jacob et non pas à Ésaü. Ésaü à ce moment-là est furieux, il décide de tuer Jacob. Mais Rebecca, qui est informée, envoie Jacob chez son frère à elle, qui s'appelle Laban, donc dans le pays voisin. Et Jacob va être exploité 14 ans par son oncle. Il l'exploite de 7 ans en lui disant « Je te donnerai ma fille Rachel dans 7 ans. » Et puis au bout de 7 ans, il lui donne son autre fille. Mais non, Rachel, tu l'auras, elle est encore 7 ans. 14 ans pour se marier deux fois avec ses cousines. Jacob va donc épouser les deux filles. Il va faire des enfants aussi aux servantes de son épouse Rachel. Alors ça, c'est un parallèle évidemment avec la progéniture d'Abraham qui avait fait un enfant à Agar, la servante de Sarah, qui était stérile. Et après, Sarah ne sera plus stérile, enfin bon. Et d'ailleurs, ça va être la même chose, puisque Rachel est stérile, Jacob fait des enfants aux servantes, et finalement, Rachel aura un enfant, Joseph. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et encore une fois, Jacob va ruser. Laban a promis de lui donner les petits à naître de ses troupeaux s'ils sont tachetés ou sombres. Et Jacob va user de magie, avec des piquets autour des troupeaux, et ainsi faire accoucher aux brebis et aux chèvres de Laban des petits tachetés ou sombres. Alors c'est une ruse, mais enfin là, Jacob il est justifié parce que Laban l'avait arnaqué, il faut bien le dire. Laban avait écarté de ses troupeaux les brebis et les chèvres tachetés ou sombres pour éviter qu'il y ait des petits tachetés ou sombres qui naissent. Et ainsi donc Jacob est devenu riche, mais en conflit avec sa belle famille. Et en songe, l'Éternel intime à Jacob de retourner en Canaan chez Isaac, son père, et de se réconcilier avec Ésaü. Jacob réunit ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, et il revient dans son pays. Je vous ai expliqué, donc il est inquiet quand même sur les intentions d'Ésaü, même 20 ans plus tard, et il a appris que Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes. Ce pourquoi il fait traverser le Yabok au guet avec la caravane et les messagers chargés de présents pour son frère. Jacob reste seul au bord du fleuve, et voilà le texte biblique que je vous ai lu. Je vous gâche la fin, les deux frères vont se réconcilier. Le combat lui-même. Alors bien des commentateurs ont repris l'hypothèse que ce combat n'était qu'un rêve. Jacob fait beaucoup de rêves, on fait beaucoup de rêves dans la Genèse. Juste après son départ de Canaan, il avait rêvé qu'il avait vu une échelle qui montait aux cieux. Vous connaissez, c'est l'échelle de Jacob. Et Dieu lui avait fait une promesse à ce moment-là. Puis encore le rêve par lequel Dieu lui demande de revenir dans son pays. Alors c'est assez normal. Un rêve illustre les soucis de la veille. Jacob appréhende les retrouvailles avec son frère. Il peut rêver qu'il affronte la vengeance d'Ésaü et la justice divine. Ce serait ça, ce combat, cet affrontement physique. Bon, c'est un peu banal, comment dire, même psychologique. Bon, ce combat n'a jamais eu lieu. Enfin, je pense pas que quelqu'un s'imagine qu'il a eu lieu comme ça. C'est donc un symbole, que ce soit un rêve ou non, c'est un combat symbolique. La question est de quoi est-ce que c'est le symbole ? Quand sommes-nous confrontés, seul à seul, avec Dieu, dans l'obscurité ? Morale ou physique, évidemment. Eh bien, je pense que c'est lors de la prière. C'est lors de la prière que nous nous remettons à Dieu entièrement. Le thème du combat de la prière, on va le retrouver, notamment dans les épîtres de Paul à Timothée. La prière est un combat. C'est pourquoi je vous ai lu aussi les deux textes du Nouveau Testament où il est question de la prière. Jacob, qui a vaincu son adversaire malgré sa blessure, lui révèle son nom. Dans la Bible, comme dans les tribus amérindiennes, je vous renvoie à Little Big Man, où le chef Cheyenne explique que si on connaît son vrai nom, les lapins vont se moquer de lui. Mais chez les scouts aussi, on garde secret son nom. Donner son nom, c'est se mettre à disposition de l'autre. Jacob se met à la disposition de l'autre en donnant son nom. Et là, bien des choses s'expliquent. Parce que Dieu sait que devant une prière sincère, il n'aura pas le dessus. Jacob ne peut qu'obtenir le pardon de ses fautes. Dieu pardonne. C'est la grâce. Dieu sait qu'il va pardonner et bénir Jacob. Il le lui a déjà promis lors du songe de l'échelle. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne peut pas avoir le dessus. Et cette blessure que Dieu inflige à Jacob, avant de le bénir, conserve néanmoins, c'est pour que Jacob conserve, après la grâce, la bénédiction, le souvenir de ce qui s'est passé et de ses faiblesses humaines. Cette fois, Jacob obtient, sans fraude, face à face, en donnant son vrai nom, la bénédiction qu'il avait obtenue de son père en se déguisant. Il la demande en face, il a donné son nom à celui aux mains de qui il vient de se remettre et qui ne s'est pas encore identifié. Il ne s'est pas identifié dans le texte, mais selon l'interprétation que ce serait une prière, évidemment, Jacob sait à qui il a affaire puisqu'il est en train de prier. Je pense que l'auteur a dû estimer qu'un corps à corps, pour symboliser la prière, c'était plus fort que le récit d'une simple prière. Jacob se mit à prier au bord du fleuve. La prière, ça demande confiance, proximité, presque un corps à corps avec Dieu, avec un Dieu bénissant, qui reste mystérieux et apparaît inaccessible. Ce combat, qui dure toute la nuit, c'est la longue nuit de la recherche de Dieu. C'est la nuit de la prière qui demande avec persévérance à Dieu sa bénédiction. Alors, la blessure à la cuisse. Pourquoi à la cuisse ? N'importe quelle blessure aurait pu rappeler à Jacob sa situation. Le texte propose un commentaire. Ce serait l'origine d'un interdit alimentaire. Depuis ce jour, il est interdit aux Juifs de manger le nerf sciatique qui est à l'emboîture de la hanche. Je ne connais pas de gastronome qui se pourrait être frustré de ne pas pouvoir manger un nerf sciatique ou un tendon de la cuisse. Ce n'est pas mangeable. Donc il doit y avoir une explication. Comme c'est en haut de la cuisse, près des parties génitales, les théologiens, qui ont l'esprit aussi mal tourné que tout le monde, ont pensé à une explication psychanalytique. Ce serait un complexe de castration. Moi, je veux bien, mais enfin, à ce moment-là, Jacob a déjà eu 11 enfants. Il en aura encore d'autres. Je ne pense pas qu'un complexe de castration le menace vraiment. Il y a deux explications bien plus séduisantes, et il y en a une qui est assez étrange et ésotérique. Dans la Genèse, la cuisse, c'est un symbole de force et de détermination. On a de la force dans les jambes, c'est normal. Et c'est le lieu du serment. Nous jurons la main sur le cœur, sur la tête d'un être cher, sur la Bible. Mais dans la Genèse, on jure en mettant la main sous la cuisse de celui qui reçoit le serment. Abraham fait ainsi jurer son serviteur pour lui faire promettre de ne pas choisir comme épouse pour son fils Isaac une cananéenne, une étrangère. Et Jacob lui-même, mourant, fait venir son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse et promets-moi de ne pas m'enterrer en Égypte, mais de me ramener mon corps dans le pays de mes aïeux. » Si vous êtes témoin devant un tribunal correctionnel, je vous déconseille. C'est bien d'un serment qu'il s'agit ici. En frappant, en touchant Jacob à la cuisse, Dieu renouvelle la promesse faite jadis à Abraham, son grand-père, et à Jacob lui-même lors du rêve de l'échelle. Jacob, Israël, sera le père d'un grand peuple. Donc cette blessure à la cuisse, c'est le serment que Dieu renouvelle à Jacob. Il y a encore une autre explication qui est liée au langage courant. Dieu a touché un nerf. Il a frappé là où ça fait mal. Jacob, en quelque sorte, vit depuis 20 ans dans le déni de ses fautes envers son frère, Ésaü. Cette blessure le rappelle à la réalité. Dieu met à nu ce qui nous fait mal, afin que, reprenant conscience de notre faiblesse, nous abandonnions tout orgueil pour accepter la vraie puissance, celle qui nous vient de Dieu uniquement. Ah, pour conclure, je vais revenir un peu à Ésaü et au rapport entre les deux frères. Parce qu'on l'oublie, Ésaü, mais c'est la victime. C'est lui qui a souffert des agissements de son frère. Bon, en l'occurrence, le préjudice est minime, puisque Jacob s'étant enfui, Ésaü est resté seul avec ses parents, donc la question, la dispute sur le droit d'aînesse, etc., n'a pas grand lieu d'être. Bon, dans un autre conflit entre frères dans la Bible, Abel a eu moins de chance. Mais revenons à Ésaü. Il est un peu balourd, Ésaü, non ? Parce que vendre son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, c'est quand même une faiblesse morale. Enfin, vous, je ne sais pas, moi je suis le frère aîné, je ne marcherai pas. On comprend, dès lors qu'il ne mérite pas de devenir le troisième grand patriarche. Je dis le troisième grand patriarche parce que, vous connaissez l'expression, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu se définit pour un tiers par Jacob. Je songe à un autre conflit entre frères, celui que Jésus nous rapporte dans ce qu'on appelle la parabole du fils prodigue, dans l'évangile selon Luc. Dans les deux cas, le cadet, le méchant, part à l'étranger. Dans la parabole, il part à l'étranger et se ruine au jeu ou avec des femmes de mauvaise vie, dans la débauche, dit le texte. Alors que Jacob, lui, s'est enrichi à l'étranger. Mais la conclusion est semblable lorsqu'ils reviennent. Le père, dans les deux cas, qu'il s'agisse de Dieu le Père ou du Dieu génétique, ou du père génétique, semble négliger le bon fils au profit du mauvais. Au retour de celui-ci, Jacob devient le troisième grand patriarche, l'autre père, lui, tue le veau gras pour faire la fête. Comme quoi, il n'y a pas tant de différence entre les deux testaments. Vous savez, c'est le thème de la brebis perdue. Hein. Ton frère était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. C'est ce que dit le père dans la parabole du fils prodigue. Le frère aîné de la parabole, ce qui n'est pas le cas des Ésaü, hein, trouve que c'est injuste quand même de tuer le veau gras pour... son frère aîné, cadet. Mais comme l'a dit Jésus, le médecin ne vient pas pour les bien portants. Les derniers sont les premiers. Enfin, vous connaissez tous ces proverbes. Je vois là un signe d'espérance. C'est là. Espérance. C'est l'un des quatre mots. Hein, espérance, confiance, labeur, charité. Un signe d'espérance. Le fils débauché et prodigue découvre qu'on va tuer le veau gras pour lui. Jacob, le trompeur, l'aigrefin, aurait dû peut-être, s'il n'en était pas conscient, mais espérer devenir le troisième patriarche, l'ancêtre du peuple juif. Je vous ai lu notre confession de foi tout à l'heure. Dieu est l'espérance des hommes, mais... Ça, c'était la phrase du pasteur Wagner. L'homme est l'espérance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu met son espérance en Jacob, malgré tous ses torts, malgré toutes ses fautes. Il met son espérance dans le fils prodigue, malgré ses débauches. Il met son espérance en nous. Ne le décevons pas. Amen. Ben, c'est le temps des annonces relatives à la vie de la paroisse. Première annonce, merci Fred, salut là-haut. Je l'applaudirai tout à l'heure. Après quoi, vous aurez droit à un rafraîchissement pour vous remettre de vos émotions. Et puis ben, c'est les vacances scolaires, il n'y a pas beaucoup d'activités. Il y a quand même le grand moment de la vie de la paroisse mercredi prochain, c'est-à-dire le cinéma. C'est Les Inconnus dans la maison d'Henri Decoing avec Rému d'après le roman de Georges Simenon. C'est un très beau film. C'est un drame criminel puisque c'est Georges Simenon, c'est pas un Maigret. Hein. Avec une scène de procès assez impressionnante à la fin et un grand numéro de Rému en avocat alcoolique déchu qui va reprendre la robe pour sauver un ami de sa fille. Voilà. C'est à 19h45, projection évidemment, si vous arrivez à 19h, vous aurez droit de partager un petit encas si vous l'apportez vous-même, enfin si vous en apportez vous-même un peu. Dimanche prochain, ce sera Dominique Hernandez, je suppose. Dimanche prochain, c'est la réformation, c'est-à-dire, je le dis pour les mécréants, l'anniversaire de l'affichage des 95 thèses de Martin Luther sur la porte de la chapelle de Wittenberg. Donc, c'est une fête particulière. Les protestants ont comme fête des fêtes chrétiennes. Les catholiques ont leur fête à eux, l'Ascension et la Toussaint, qui s'ajoutent. Nous avons la Réformation, que par discrétion nous fêtons toujours le dimanche. D'autres annonces, Madame la Présidente. 10 novembre, donc, ce sera l'installation officielle de notre nouvelle pasteur Dominique Hernandez, qui est là depuis juillet, mais bon, la cérémonie aura lieu le 10 novembre, donc au culte, évidemment, à 10h30 le matin. D'autres annonces ? Non ? Bien. Ah, ben, bah, c'est tellement loin, ça. C'est dans un mois. Oui, parce que comme le dernier jour tombe le samedi, je ne sais jamais si le dernier week-end, c'est celui où il y a... C'est le dernier week-end complet de novembre. Voilà. Donc ça commence le vendredi à midi. Pardon ? 17h ? Ah, pardon. Il y a une réunion de groupe avant là-dessus à annoncer ou tout est prêt ? Pardon ? C'est ça, non mais vous auriez pu vous décider de vous réunir pour peaufiner. Et il y aura évidemment l'installation à faire le mercredi, si je ne m'abuse. Mais on vous en reparlera. Pour ceux qui ont des bras musclés. Eh bien, c'est le moment de l'offrande. L'offrande, c'est un moment liturgique. Ah, une annonce. Samedi prochain. Oui, ah, mais tout est dans le journal, mais... Absolument. Samedi 26, 10h30, Évangile et Liberté. Donc, c'est un groupe qui commente le mensuel Évangile et Liberté. Les groupes sont ouverts, je ne sais plus à qui nous l'avons dit tout à l'heure, à tout le monde. Et donc, c'est le moment de l'offrande. Donc l'offrande, c'est un moment liturgique, hein, c'est pas, comme le disait le pasteur Hubach, l'Église ne fait pas la manche. C'est un moment liturgique aussi important que les autres. Elle permet à l'Église de vivre, de faire connaître la parole et d'aider les plus démunis. Je vous rappelle que l'offrande, ce n'est pas une indulgence, ça n'achète pas votre place au paradis. C'est donc encore plus méritoire d'y contribuer, puisqu'il n'y a aucun intérêt. Et pendant l'offrande, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 266, pendant qu'on recueille l'offrande. 266, ô Jésus mon frère. Thank you. nous entrons dans le moment de l'intercession. Notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour ceux qui sont seuls. Conduis-nous à leur rencontre. Nous te prions pour les prisonniers. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous de leur offrir notre appui. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Inspire-leur de vouloir le bien du plus grand nombre et non celui de leur clan ou de leur parti. Et nous te prions, dans le secret de nos cœurs, pour ceux qui nous sont chers. Et nous voulons te redire tous ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Je vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Nous allons quitter ce temple, retrouver la vie quotidienne, nos habitudes, nos joies, nos soucis. Annoncer partout la bonne nouvelle de la grâce, du pardon, du salut et de l'espérance, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur de la paix vous accompagne et vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Amen. Bon dimanche et à tout de suite, j'espère, après quelques notes de musique.